Israël, Chachin oriental. J'ai réfuté totalement cette
histoire. Moi, c'est libre de combattre au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la crise de l'écriture, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. Un immeuble situé sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa est au cœur d'un conflit qui oppose une famille à M. Luzolo Obambi, conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Madame Kapinga et son époux, Francis Georges Marie, qui affirment en être propriétaires, ont été délogés par des policiers qui occupent l'immeuble. Le conseiller spécial du chef de l'État, lui, accuse en revanche ce couple de tenter de spolier cet immeuble qui appartiendrait à l'État congolais. Cette affaire relance donc les débats sur l'état des lieux, des immeubles et autres biens appartenant à l'État congolais. Comment commentez-vous cette actualité? C'est la question au centre de ce débat. Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appeler au 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Notez que toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Jean-Claude Tiala est à la technique, Fesa Julie Bongonda en standard et Pierrot et la BG à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Martin Sebou Jean-Louis. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
La gestion du patrimoine immobilier et mobilier de l'État pose problème selon plusieurs analyses et même plusieurs rapports publiés par les autorités de tutelle, c'est-à-dire de l'administration de l'habitat. En dépit de plusieurs textes donc qui sont élaborés pour sécuriser et réglementer la gestion du patrimoine privé et public de l'État congolais, les biens mobilier et immobilier constituant les domaines de l'État sont en proie à une spoliation organisé par certains citoyens. Alors, deux voix s'élèvent pour, au fait, décrier ces genres de comportements qui fait de la République une victime. Voilà, Maître Sauville, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Maître Sauville.
Bonjour, Monsieur Gire. Bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Okapi.
Maître Sauville, comment...
Monsieur
Gire. Oui, j'ai dit, comment commentez-vous l'actualité et la question relative à la gestion aujourd'hui des immeubles et autres biens appartenant à l'État, pour les cas, par exemple, de Lubumbashi, est-ce que vous avez des témoignages?
Oui, Monsieur Gire, j'ai des témoignages par rapport à la spoliation des biens de l'État. Et non pas seulement même par rapport aux biens de l'État, même aux biens privés qui sont spoliés. S'il y a eu création d'Obema au temps de Moïse, c'est pour récupérer tous les biens maladies qui revenaient à l'État congolais, de posséder les spoliateurs de ces biens-là. Mais pour le cas d'espèce par rapport au bâtiment qui fait dispute entre le couple Kapinga et M. Luzolo Obambi, moi j'estime que c'est un peu inadmissible, puisque M. Gier, nous avons quand même une justice au Congo, c'est inadmissible qu'un grand responsable comme M. Luzolo Obambi qui se retrouve dans les précarés du chef de l'État chargé de dénoncer la corruption, le blanchiment d'argent, la richesse du site, toutes ces antivaleurs-là, et de se voir ministre honoraire de justice se comporter de la sorte au motif qui est dans le cercle du président. Ça rejette tous les pouvoirs judiciaires, en se substituant même en PGR, après le président de la Cour, pour déguerpir les couples Kapinga, puisque nous avons une justice ici. Le chef de l'État n'a pas besoin des collaborateurs de ce genre qui lui rendent de mauvais services. Monsieur Luzolo, quel que soit son rang, il ne peut pas se rendre justice soi-même par trafic d'influence, puisqu'il est influent dans le précaré du chef de l'État.
Oui, mais je crois que nous devons nuancer un peu certaines choses. Je crois qu'il en vaut aussi pour tous ceux qui vont intervenir par rapport à cette question. Je crois que nous avons tous suivi l'actualité et l'actualité a été largement traitée au niveau de Radio Okapi et sous d'autres chaînes de télévision et stations de radio. Je crois qu'à ce niveau, nous devons comprendre une chose. Le conseiller du chef de l'État a même bien dit qu'il s'agissait d'une tentative de spoliation parce que on devait attendre quand même les enquêtes qui devaient être menées là-dessus et qu'il y avait des preuves que cet immeuble appartenait à l'État.
Oui, monsieur Gilles, j'ai suivi aussi sur Okapi, mais le fils de Mme Kafinga qui dit qu'il y a un contrat qui est lié, qui lie le couple Kafinga et le ministère de Santé. Il y a un contrat qui date de 2004. Par rapport aux allégations du représentant du ministre de Zolobandi, il a dit que c'est depuis belle lurette, depuis très longtemps, que le ministère de Santé occupait cet immeuble. Alors nous ne savons pas qui dit la vérité, qui dit le mensonge. Mais néanmoins, par rapport aux allégations du fils de Mme Kafinga, il a dit qu'il percevait même les loyers auprès du ministère de Santé. Et il y avait un contrat du mois signé entre les deux parties. C'est là où nous nous posons la question. À l'hypothèse où le dossier est fixé au parquet, nous en saurons toujours la suite pour savoir si effectivement l'immeuble est fourni par Mme Kafinga ou ça. Par l'entremise de ce service qui va se produire cela. Nous attendons seulement le verdict qui sera rendu, puisque nous savons que dans la République démocratique du Congo, le jugement est rendu au nom de l'État et les arrêts et les jugements sont exécutés au nom du chef de l'État. Mais le jugement est rendu au nom du peuple congolais. Nous estimons qu'à ce moment-là, nous serons tous fixés par rapport à cet immeuble-là. Mais par rapport aussi à la spoliation, nous savons qu'on a eu à récupérer beaucoup d'immeubles auprès des détenteurs de certains titres et tout ça, au temps de l'Obéma. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes-là ont déjà récupéré ces immeubles-là. Nous ne savons pas s'il y a continuité d'administration ou pas. Mais j'ai saisi cette opportunité pour parler aussi des biens privés qui sont spoliés par les gens du pouvoir, par rapport ici à Lubumbashi. Il y a le bâtiment de M. Rachidi, sous crédit foncier, qui avait ce bâtiment-là, qui est situé entre l'avenue Mobutu et l'avenue Senglé. Ce bâtiment est spolié malgré que Mme Rachidi a présenté tous les documents possibles. Ce bâtiment est spolié par les gens qui sont au pouvoir, par les gens qui sont forts pour le moment. Un autre bâtiment, à Bumanyema, à Mobutu, occupé par un interlocuteur, devenu propriétaire, spolié toujours. Alors moi, j'estime que, en fait, concernant la spoliation, il y a toujours complicité entre les gens de la justice et les gens même les préposés de services de cadastre. Puisque malgré, bien quand bien même le dossier est fixé au niveau des cours, à des tribunaux, quand bien même le propriétaire et le vrai propriétaire présente tous ces documents, une fois que il est en conflit avec un monsieur du pouvoir, soit une dame de la famille présidentielle, soit les gens du gouvernement, c'est toujours à ces gens-là que reviennent toutes les raisons. Et les pauvres citoyens se trouvent les possédés de leurs immeubles.
Oui, maître Sonville, je crois que nous avons toujours fait confiance en notre justice, et beaucoup de personnes qui ont été lésées, le fait d'avoir saisi la justice, et certains parmi elles sont rentrés dans leurs droits. Je crois que ici, ce n'est pas en fait le cadre pour fustiger dans le sens de citer, parce que peut-être vous avez des preuves. Mais Castel-Lesienne, vous avez dit qu'il n'y a pas seulement les biens publics qui sont spoliés, mais il y a également des personnes privées ou des personnes privées qui sont l'objet de spoliation par ceux qui estiment être dans leurs droits. Ben alors, c'est à la justice de trancher et de pouvoir situer les uns et les autres. Merci beaucoup, Maître Sonville, d'avoir appelé de Lubumbashi. Félicien, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Félicien.
Bonjour à tous les auditeurs.
Alors, Félicien, aujourd'hui, ce n'est plus un secret, comme l'a dit d'ailleurs Maître Sonville, la gestion du patrimoine immobilier et mobilier de l'État pose problème. On ne sait exactement pas qui dit vrai en ce qui concerne la spoliation. Pour les derniers cas, il y a une famille qui se réclame être propriétaire au niveau du boulevard du 30 juin à Kinshasa, mais entre-temps, les conseillers du chef de l'État en matière de lutte contre, en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, lui estime que voilà, cet immeuble-là appartient bien et bien à l'État congolais. Alors, vous avez aussi une lecture par rapport à ce qui se passe en ce qui concerne la spoliation. Quel est votre point de vue par rapport à cette thématique?
Oui, merci beaucoup. Mais je voudrais dire que ça ne peut pas être des cas individuels où une dame ou une personne a spolié et on va s'occuper de ça. Nous connaissons tous que le patrimoine immobilier de l'État congolais est spolié dans son ensemble. Et nous avons, il y avait une commission de biens mal acquis à l'époque de la conférence nationale, et la conférence nationale n'a pas abouti. Il y a eu Obéma avec j'arrivais de manger et tout ça, et qu'il n'y a pas donné des résultats escomptés. Et aujourd'hui, moi je pense que nous devons chercher, c'est de remettre un peu l'État congolais dans ses droits. Les biens de l'État, ce sont les biens de tout le monde. Mais ce sont des dignitaires, ceux qui ont le pouvoir dans ce pays, qui s'approprient les biens. Et si on va s'attaquer à cette dame, c'est parce qu'elle n'est pas au pouvoir, mais ceux qui sont au pouvoir, personne ne va s'attaquer à eux. Mais si on peut reprendre dans l'ensemble la formule des biens mal acquis et de la conférence nationale souveraine, beaucoup des responsables dans ce pays détiennent des biens publics et surtout des patrimoines immobiliers. Et on ne peut pas faire une justice sélective, mais il faut qu'on puisse voir la situation dans l'ensemble. C'est parce qu'il y a des intouchables et que le Zoloban n'est pas en mesure d'aller toucher aujourd'hui et il va s'occuper de ceux qui n'ont pas de protection. Mais si on peut répandre cette situation au niveau même des dialogues et créer une commission des biens mal acquis, une commission.
Mais oui, est-ce que, oui, Félicien, est-ce que vous estimez, il y a certaines personnes qui estiment vraiment inopportun de créer encore une autre commission dans la mesure où il existe au sein de l'administration de l'habitat une direction qui s'occupe de la question, c'est-à-dire il s'agit de la direction centrale des logements et bâtiments. Donc je crois que si aujourd'hui il y a des services déjà qui existent, pourquoi multiplier encore des commissions?
Mais nous avons des problèmes dans ce pays. Et vous connaissez comment fonctionne et notre administration. Nous avons un problème d'hommes. Vous passez au service des cadavres. Et ils connaissent bien que c'est le bien de l'État. Et les gens les achètent et on leur délivre les documents. Si nous suivons cette formule-là, tout est pourri. Voilà. C'est pourri dans ce pays. Yeah. Nous avons besoin de chercher un nouveau départ quelque part où les gens doivent dire non, on ne peut plus continuer à vivre comme ça. Donc, cette commission-là, ou notre justice, le président de la République l'a dit, il y a encore à faire dans notre justice. Donc, nous avons besoin un jour de dire non, on ne peut pas vivre comme ça, nous sommes des hommes quand même civilisés, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Tout le monde veut devenir riche, mais c'est l'État qui doit être pauvre et l'État n'arrivera jamais à faire une répartition équitable des revenus nationaux de cette façon-là. Donc, nous avons besoin de réfléchir. Et c'est des occasions comme ça, nous sommes en train de rater. Nous avons raté avec la conférence nationale. Et aujourd'hui, si nous ne pouvons pas récupérer au niveau du dialogue, nous allons toujours rater des occasions où nous devons nous dire la vérité.
Voilà, merci.
Il y a quelque chose à faire.
Merci beaucoup, Félicia. 081-890-7315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio M. Bongui, Efonda, Efoloté, JR. Voilà, M. Efoloté, voilà, JR, vous êtes avec nous, vous êtes directeur de cabinet du ministère de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat. Voilà, vous venez de suivre les auditeurs, mais d'entrée de jeu, une question, des curiosités, je crois que les auditeurs qui nous suivent aimeraient bien se faire une idée sur l'état des lieux. À ces jours, on dénombre combien d'unités de logement de l'État et combien sont sujets à controverse.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je me suis d'abord pour le petit retard avec lequel je suis arrivé.
Je vous en prie.
C'est pour un long voyage. J'ai suivi les interventions des auditeurs de tout à l'heure. Et comme vous le savez, parmi les problèmes auxquels le gouvernement accorde une priorité, c'est en ce qui concerne la gestion et la clarification en ce qui concerne le domaine privé de l'État, c'est-à-dire le patrimoine immobilier qui relève du domaine privé de l'État. Et à titre de rappel, vous savez, les maisons que nous avons aujourd'hui, pour vous rappeler à l'époque coloniale, les Noirs à l'époque n'avaient pas conçu dans une cité comme Gombe ou Kalila. Ce sont des maisons qui ont été conçues pour la plupart à l'époque coloniale et qui appartiennent à l'État. Et que quand on prend le patrimoine immobilier aujourd'hui de l'État, il est composé, il y a des immeubles bâtis par la colonie pour loger les cadres et agents coloniaux et gérer jadis par l'Institut de gestion du portefeuille, qu'on appelait à l'époque IGP. Il y a aussi des immeubles bâtis construits par l'État lui-même, notamment par la présidente de la République. Il y a des immeubles issus du règlement du contentieux belgo-congolais, Il y a des immeubles hérités des sociétés para-étatiques dissoutes, notamment la société de crédit classe moyenne et industrie qu'on appelait à l'époque CCMI. Et ce sont ces maisons-là, tous ces immeubles, qui font partie de ce qu'on appelle le domaine privé de l'État, et qui autrefois étaient gérés par le ministère du portefeuille. Et après, il y a eu une remise de reprise, c'est-à-dire quand il y a une signature de l'ordonnance numéro 89/034. Du 30 janvier 1989, il y a transfert de certaines attributions du ministère du Portefeuille au ministère des Finances et au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Donc, c'est ce patrimoine-là qui est sous la gestion de notre ministère et qui fait l'objet, ça ce n'est plus un secret qu'on doit dire, d'une spoliation à grande échelle. Une spoliation qui n'a pas commencé maintenant, mais une spoliation qui commence et qui a commencé depuis plusieurs années. Et le gouvernement s'attelle depuis 3 ans, 4 ans maintenant, à récupérer toutes ces maisons-là. Et il y a eu un travail, qui a été fait sur l'instruction du chef de l'État, qui a ensuite le gouvernement, n'est-ce pas, le premier ministre, ensuite le ministre.
En 2004, le ministre de l'UTPR, Philolin Kachéchi, pour ne pas les citer, a présenté à l'Assemblée nationale un rapport où je ne pourrais pas parler de l'abcès qui a été créé, mais il a dit, il a présenté les tableaux tels que demander en fait l'opinion publique, voilà, sur l'état des lieux, la gestion même des biens de l'État.
Oui, effectivement, il y a eu deux arrêtés que le ministre a signés, notamment ce qui concerne la ville de Kinshasa. Parce qu'il fallait, l'État s'est dit, ce sont mes maisons, mais il fallait que l'État puisse commencer d'abord par identifier, que l'État dise qu'est-ce qui lui appartient. C'est ainsi que pour la ville de Kinshasa, il y a signature de deux arrêtés, notamment l'arrêté 020/2013 du 24 septembre 2013, et ce qui a été modifié par l'arrêté 001/2014 du 14 janvier 2014. Donc ces deux arrêtés identifie clairement ce qui appartient à l'État. Et lors de cette identification, on avait dit que la liste n'était pas exhaustive, que l'État allait continuer à mener des investigations, et c'est ce qui est fait, et cette liste va être complétée. Et en même temps qu'on avait publié, n'est-ce pas, ces deux arrêtés, il avait aussi mis en place une commission qui était chargée d'examiner les recours qui étaient introduits par les particuliers qui estimaient qu'on a repris par erreur ou peut-être par, je ne sais pas, comme les gens l'ont dit, par mauvaise foi, je ne sais pas si c'est mauvaise foi, on a repris leur maison, on a institué une commission composée de experts du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, du ministère de la Justice et du ministère des Affaires Frontières, pour que les gens qui se sentaient lésés puissent venir déposer leur recours et on a examiné les quelques
recours. Mais qui constate un cas de spoliation? Et qui a habilité à dénoncer un cas de spoliation? Est-ce en amont c'est le ministère de l'Habitat ou le ministère de la Justice ou encore un conseiller privé?
La dénonciation, c'est d'abord l'affaire de tout citoyen. Mm-hmm. C'est le devoir de tout citoyen de voir que voilà, moi je suis informé que ça c'est une maison de l'État et c'est spolié. Ce n'est pas seulement l'affaire du ministère, mais tout citoyen congolais peut dénoncer les cas de spoliation.
Et comment peut-on récupérer un bien spolié? C'est après jugement, bien entendu.
Oui, après, il y a...
Jugement rendu, on l'a dit fort.
Oui, récupéré par l'État. Vous savez, il y a eu un petit problème. Un petit problème, c'est qu'il y a des mesures et des cas de spoliation. Et la première phase de la récupération, c'était l'identification. Et on a identifié que la maison appartient à l'État. Et maintenant, après l'identification, c'est que la notification aux occupants de cette maison pour leur dire que, écoutez, monsieur, là où vous occupez, ce n'est pas à vous, c'est une maison de l'État. Et c'est la procédure qui est en cours.
Alors, vous avez parlé de maisons qui ont été construites par les colons, oui. Les Belges à l'époque. Dans la plupart des cas, ce sont des maisons qui sont à Kalina, à l'époque, aujourd'hui, Gombe.
Oui.
Mais il y a eu aussi des maisons qui ont connu des cas de désaffectation, que l'État a décidé de désaffecter des maisons et qui se sont retrouvés entre les mains des privés.
Oui, oui.
Qu'il s'agisse de la Gombe ou à la cité.
C'est effectivement. Il y a eu des cas de... Vous savez, à partir quand il y a eu remise de reprise d'abord, le 29 juin 1989, entre le département, à l'époque on l'appelait le département ministériel, le département du portefeuille et le département de l'urbanisme et habitat, il y a eu cette remise de reprise qui a été faite en 1989, le 29 juin. Et de 1989, on a commencé, n'est-ce pas, à constater une certaine pratique, un phénomène, où c'est la présidente de la République cédait, n'est-ce pas, à certaines notabilités, à certaines personnes, n'est-ce pas, des maisons de l'État à titre onéreux, et ces gens-là étaient maintenant obligés d'aller payer quelque chose, puisqu'on ne pouvait pas prendre ça gratuitement, et d'aller payer. Et c'est après cette procédure que la session devenait régulière.
Mais qu'est-ce qui va se passer, M. Jouet? Les gens vont profiter de cette situation pour aujourd'hui, n'est-ce pas, commencer à présenter. Ils ne vous présentent que des photocopies. Que moi aussi, j'étais bénéficiaire de telle mesure. Et rare, sont, posez seulement la question, vous dites d'accord, vous étiez bénéficiaire de cette mesure. Où est l'original? La lettre est décidée. On vous a cédé cette mesure. Où est l'original? Les gens ne présentent que des photocopies. Et les photocopies des documents signés par des ministres de l'État. Bon, en fait, il y a continuité de
cette
mesure. On a du mal pour que ces gens puissent vous présenter. Et vous verrez que quelqu'un à qui on a cédé une maison en 1988-89, même s'il a réclamé 20 ans après. C'est-à-dire pendant les 20 ans, monsieur est resté calmement transformé.
Alors, je crois qu'avant d'ouvrir les standards et accueillir les autres auditeurs, j'aimerais bien que nous ayons un peu d'éclairage par rapport à la situation qui fait l'actu ces derniers temps. C'est l'immeuble situé sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa, qui oppose monsieur Luzolo Bambi, le conseil spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, à madame Kapinga et son époux, Francis-Georges Marie, qui affirme à être propriétaire. Alors, est-ce que, au niveau déjà de l'enquête menée par vos services, cet immeuble est répertorié comme l'immeuble de l'État?
Non, vous savez, on ne peut pas parler d'un conflit individuel entre le professeur Luzolo Bambi et la famille que vous venez de citer tout à l'heure. Là, ce n'est pas une affaire personnelle du professeur Luzolo, mais c'est une affaire d'État. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, cet immeuble, sur le boulevard, on a plusieurs immeubles. Alors, je crois que c'est le même qui habitait autrefois
le ministère de la Santé.
De la Santé. Où, depuis un certain temps, n'est-ce pas, il y a la dame qui réclamait que la maison lui appartenait. Ce dossier, nous sommes montés de l'examiner maintenant, en profondeur, pour que nous puissions réellement.
Mais la justice n'a pas encore tranché.
La justice n'a pas encore tranché, l'affaire est encore pendante au niveau de la justice.
Donc, il n'était pas question que les policiers ou encore d'autres services puissent procéder à une récupération. De force.
Oui, en fait, puisqu'il y avait un service de l'État qui occupait cette maison, et vous savez, pendant toute la période d'occupation, je ne rappelle pas à l'époque, j'étais consul de travaux publics, je voyais des factures qui venaient, la dame adressait pour dire que voilà, mon loyer actuellement, c'est de tel montant, ainsi de suite. Et on avait demandé à la dame de prouver que c'était sa maison. Mais pour faire un service de l'État libéré.
Donc la dame n'a jamais prouvé. Mais pourtant, le fils s'est passé sur le ton de Radio Capi avec des preuves.
Oui, bon, les
preuves. Des paiements d'abord de.
Oui, des loyers, c'était ce qui avait été dit. Mais donc, qu'à un moment donné, il y avait des premiers paiements qui ont été effectués. Et puis après, l'État a arrêté. Bon, là, il y a quand même, il y a trop de contradictions, trop de polémiques autour de ce dossier-là. Je crois qu'il serait mieux
d'attendre et suivre ça calmement. Voilà. Voilà. Alors, on va passer de l'autre côté. Il y a le professeur Ignace de Colosi et Jean Dédieu de Kikwit, professeur aussi de Kinshasa. Professeur Ignace, vous êtes avec nous?
Je suis avec vous. Bonjour, ça tombe bien aujourd'hui, l'émission est animée par des homonymes.
Merci.
Évoquer l'aspect du conflit. Je veux simplement dire que si la bonne gestion du patrimoine de l'État, ce genre de choses ne doivent pas arriver. Il ne faut pas comprendre que un bâtiment occupé par un ministère de l'État, du gouvernement, lorsqu'on doit le céder, celui qui doit céder cette maison doit avoir des certitudes que c'est la maison qui continue à appartenir à l'État pour la céder à une si grande autorité, je citais le conseiller du président de la République. Maintenant, je reviens sur l'état des lieux. Je me dis, lorsque vous regardez, il y a de quoi regretter, hein. Les bâtiments de l'État, les maisons de l'État, pour la plupart, je l'ai dit sous réserve pour celles qui sont à Kinshasa, mais d'une manière générale, ce sont des maisons qui sont en train de se mourir. On est même poussé à parler d'une certaine stratégie de spoliation organisée, c'est-à-dire on s'arrange pour ne pas entretenir les maisons et on les laisse se mourir jusqu'à ce qu'on va les désaffecter et automatiquement ça crée des problèmes. Il y a un autre aspect, c'est la redevabilité dans la gestion. En fait, ça ne devrait pas être un secret. Nous, en tant que citoyens, dans toutes nos entités où nous sommes, nous devons savoir qu'est-ce qui appartient à l'État, dans quel État cela est, se trouve et là-dedans. Qui l'occupe. C'est toujours très important ça. Mais malheureusement, les choses se passent comme si c'était des secrets. Et le problème se crée, il y a des rumeurs et tout ce qui s'ensuit. Mais moi, je voudrais aussi dire que l'État, en principe, devrait revoir sa façon de gérer ses maisons. Parce que ce n'est pas normal qu'en province, beaucoup plus, j'ai parlé, vous allez voir qu'il n'y a pas à proprement parler des nouvelles maisons que l'État aujourd'hui s'est créé, s'est construit. Vous allez voir, par exemple, que les maisons qui existent, ce sont des agents de l'État, parfois qui sont dans des situations difficiles, et à la fin, vous savez, le système de paiement et les conditions de vie, cela fait que les gens cherchent toujours à se payer, c'est-à-dire la maison où ils sont restés pendant des années, ils ont vieilli, ils ont tendance à vouloir la prendre. Mais il y a l'Office des grands travaux, il y a le ministère des ITPR. Je crois qu'à ce niveau, on devrait envisager une bonne politique d'habitat, construire de nouvelles maisons et continuer à les entretenir. S'il y a des maisons de l'État qui sont en location, en principe, pour de bonnes gestions, elles devraient produire de l'argent qui aiderait aujourd'hui à construire. Donc moi, je vais te dire, l'État doit cesser de disons des situations sur la place publique qui gênent, mais aussi penser à construire des maisons, pas seulement dans la capitale, mais aussi en province. Voilà à peu près ma façon de voir les choses.
Voilà, merci beaucoup, professeur Ignace, d'avoir appelé de Colosi. Jean Dédieu, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes, bonjour à notre cher invité, à tous ceux qui sont présentement dans la salle Radio Kikwit.
Oui, vous avez la parole, Jean Dédieu. Quel est votre avis par rapport à cette thématique?
Merci beaucoup. Mon avis, je vais intervenir sur trois points. Le premier point, je vais te parler et d'abord poser une question à l'invité et demander, dans notre pays, nous avons combien de l'État? Pourquoi je dis ça? Parce que, vous voyez, il y a le système de contradiction. Quand vous êtes devant le service de l'habitat, vous êtes parti demander une fiche, un titre d'occupation de la parcelle. Et on va vous dire, ils vont vous parler une autre chose. Vous allez devoir les affaires foncières. On va de la cadavre, on vous parle aussi. Une autre chose, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas en collaboration. Il y a contradiction pour dire que non, notre service est plus supérieur que l'autre. Alors, c'est dans ce sens-là, vous verrez, quand il y a un terrain de l'État, où on va faire un démantèlement pour vendre à des individus, et vous voyez qu'il y a des contradictions, on va vous donner des documents pour vous dire que non, ça c'est pas, et c'est l'État lui-même qui nous a donné l'autorisation,
oui. Donc vous...
de démanteler les terrains, donc... et de vendre à des individus, et on vous donne aussi même des contrats ou des fiches parcellaires. Et
voilà,
après,
donc...
dans ce cas-là, avec toutes ces contradictions-là, c'est l'État lui-même qui est en train de toujours permettre sa population à des autres. Et la deuxième fois que je vais intervenir dans ce sens, où je vais demander pour dire qu'il y a aussi quand l'habitat dit oui, tout citoyen peut dénoncer quand il y a le cas de la
spoliation
des biens de l'État. Quand vous voulez même accuser ou bien dire non, il y a quelque chose qu'on est en train de spolier, soit c'est un immeuble, mais il y a des démantèlements de parcelles. Parce qu'au temps de l'époque coloniale, le Belge construisait et il laissait des grandes espaces pour l'aération. On ne considère pas comme les cas pour aujourd'hui où on voit qu'il y a des maisons qui sont serrées, mais des grandes étendues que le blanc laissait. Aujourd'hui, il y a des morcellements où il y a des individus, des intouchables qui peuvent même s'arranger, être au nombre de 2-3, il y a un démantèlement du terrain, il va à des prix là très chers. Et quand vous allez à qui?
Voilà, merci beaucoup.
Auprès de qui?
Merci beaucoup.
Auprès de qui vous pouvez
aller à qui? Alors, merci beaucoup, Jean Dédieu. Merci beaucoup, Jean Dédieu. On va prendre le professeur Zita qui est à Kinshasa. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole, prof.
Oui, je pense que nous avons d'abord des choses importantes. C'est que la Constitution de la République prévoit que les crimes économiques sont imprescriptibles. Et ces gens qui sont en train de spolier des biens de l'État, tôt ou tard, répondront à leurs crimes. Parce qu'on doit voir d'abord s'il n'y a pas conflit d'intérêts. Donc, à mon avis, nous devons voir un moment où on va faire l'audit pour savoir quel était le patrimoine de l'État. Et maintenant, qui en occupe et il avait quelle position quand il a eu les droits de l'occuper? Parce que maintenant, c'est presque une carte blanche. Dès qu'on est aux affaires, on peut tout prendre et sans responsabilité et sans question posée. Mais c'est que ma chère Émise, parce que la Constitution de la République a déjà prévu que ce genre de choses, il n'y a pas prescription. Donc, je pense qu'on m'a venu.
Oui, professeur. En tant qu'élite et aussi chercheur, aujourd'hui, s'il faut compter plusieurs démarches déjà amorcées dans en ce qui concerne la gestion des immeubles et autres biens de l'État, on peut citer des cas, disons des contrôles qui devraient en principe permettre à l'État de rentrer dans leurs droits. On peut citer les cas de cet office de biens mal acquis et tant d'autres audits qui ont été organisés au fil du temps. Mais à ces jours, continuerons-nous à dénoncer, à se plaindre, et on est allé même au-delà d'assister à un dépôt d'un rapport très bien ficelé de l'ancien ministre de l'urbanisme et habitat, M. Fidolet Kachéchi, pour ne pas le citer, auprès de l'Assemblée nationale, réprimant les maisons, qui sont sujettes à être spoliées par des hommes galonnés ou encore les gens qui détiennent le pouvoir. Mais à ces jours, faudrait-il mettre une commission de suivi pour sanctionner? Ou peut-être devons-nous demeurer dans des rapports pour pouvoir dénoncer? Vous, en tant que professeur, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme une piste de solution?
À mon avis, maintenant que nous allons aux élections, ça risque d'être une bonne distraction pour nous empêcher à faire ce qui doit être fait, parce que nous avons un agenda bien rempli, beaucoup d'élections dans une année. Mais je pense que il n'y a pas péril en demeure, parce que la Constitution prévit que les crimes économiques sont imprescriptibles. Et aussi, puisqu'ils ont pris ces bâtiments d'une manière anarchique, c'est une des causes des inondations de toutes les rues de Kinshasa, où on n'avait pas besoin d'avoir des maisons en étage, mais en étage, ils ont morcelé en désordre, ce qui fait que maintenant, toute la Kinshasa, par exemple, est en danger, il y aura beaucoup d'érosion, donc quand le moment venir, on va essayer de rester les
pieds. Voilà, merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, professeur. Je crois que certaines personnes disent que le dialogue ne doit pas tout arrêter, donc la République doit continuer. C'est vrai, le dialogue, c'est éminemment important pour que les politiques se parlent, mais la machine doit continuer pour le cas d'espèce, pour nous éviter des cas récurrents de spoliation, comme c'est le cas maintenant au niveau de boulevard des 30 juin. Il y a un immeuble qui est en conflit, qui oppose le conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, à Mme Kapinga et son époux, Francis et Georges. Merci beaucoup, professeur Zita, 081-890-6315, pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Voilà, M. J.R. Bongui et Bonda et Folleté, vous êtes directeur de cabinet auprès du ministère de l'Aménagement du Territoire et Urbanisme et Habitat. Après avoir suivi les uns les autres, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est vrai, jusqu'à quand la population demeurera-t-elle dans la dénonciation, d'autant plus qu'il y a des rapports qui sont clairs, élaborés par les autorités et des tutelles, pour dénoncer d'ailleurs cette spoliation à grande échelle. Qui est souvent occasionné par des hommes parfois galonnés ou des hommes qui détiennent le pouvoir.
Merci, Monsieur Gilles. Avant de répondre à votre question, je vais quand même apaiser les deux intervenants de tout à l'heure, notamment le professeur Ignace Akolozi, pour lui dire que ce qu'il a dit est vrai, c'est que les maisons construites depuis, à sa fin, maintenant 40 ans, 50 ans, sont dans un état vétuste, n'est-ce pas, ou un état de délabrement très avancé. Et de ce côté-là, le gouvernement initie, à travers notre ministère, ce qu'on appelle une stratégie, une politique de rénovation urbaine. Donc, il y a des contacts maintenant avec les partenaires. La seule solution pour la réhabilitation de ces maisons, leur réflexion, et en même temps, c'est pour accroître le parc immobilier de l'État, passe par le partenariat public-privé. Et vous avez vu que ce partenariat public-privé a déjà produit des effets, n'est-ce pas, a commencé à produire des effets dans la ville de Kinshasa. Quand vous prenez, par exemple, aujourd'hui, la pépinière, vous prenez aussi l'immeuble de l'Okeling à côté de
la cité du feu.
C'est-à-dire, là où l'État, peut-être, c'est une villa, dans un état vêtu, c'est sur un grand terrain, n'est-ce pas, un fonds qui est bâti, peut-être occupé à 10% à 20%, on peut aussi, à travers le partenariat public-privé, faire en sorte qu'on puisse ériger dans la même superficie d'autres immeubles, parce que ça va accroître le parc immobilier, ça va aussi accroître les recettes de l'État. Alors, en ce qui concerne parfois ce que j'ai déduit à dire, qu'il y a des contradictions sur le service des affaires foncières et puis urbanisme et habitat, les deux ministres actuellement se sont convenus pour la mise en place de commissions interministérielles. Une commission interministérielle, c'est une commission qui va regrouper les experts
les affaires foncières et les effets de l'urbanisme habitat pour arriver quand même à essayer d'harmoniser les vues et régler, trouver des solutions à certains problèmes. Alors, ce que je dois dire en ce qui concerne la solution, vous savez, un bien de l'État reste toujours un bien de l'État. Tôt ou tard, l'État a déjà commencé même à la récupération des immeubles. Ça a été fait à Bukavu. À Bukavu, il y a des immeubles de l'État qui se trouvent entre les mains de particuliers que l'État a récupérés. À Lubumbashi aussi, de même, il y a des maisons que les gens ont de même, donc que l'État a commencé petit à petit, n'est-ce pas, à récupérer. Et il en est de même aussi pour la ville de Kinshasa. Il y a des actions que je ne voudrais pas déjà annoncer ici, puisque je ne suis pas compétent pour le faire, mais il y a des actions qui vont être menées où l'État va récupérer ses immeubles. Vous serez même étonné que certains immeubles qui sont bâtis dans la ville de Kinshasa, merci de tenir appartenant à l'État pour les gens à qui il faut.
Est-ce que vous ne pouvez pas vulgariser, par exemple, les deux derniers arrêtés réprimant des maisons appartenant à l'État, les immeubles et autres biens, c'est-à-dire comme on les fait peut-être par la sous-presse, donc au niveau de la presse écrite, publié et que les gens puissent se mettre à comprendre que voilà, nous sommes dans les bons ou pas.
Oui, les deux arrêtés.
Pour ne pas être surpris à tout moment, parce que nous avons vu les cas de l'immeuble royal, les gens qui ont été préavisés, en tout cas précipitamment, peut-être les choses qui devaient être faites bien avant, en amont, pour permettre ainsi que les gens se préparent aussi.
Non, pour les cas de royal, en fait, je réponds en ce qui concerne la vulgarisation. Les deux arrêtés ont été publiés dans les journaux officiels. Et les gens plus connaissants, je crois peut-être qu'il a fallu, en tant que nous, pour que nous puissions organiser au moins des centres de vulgarisation, encore des campagnes de sensibilisation.
Sur le terrain.
Et sur Royal, à l'époque, les gens étaient préavisés. Les gens étaient informés même 2-3 ans avant. Mais malheureusement, ici, chez nous, c'est-à-dire quand on occupe une maison pendant 5 ans, 10 ans, c'est ça le cas souvent avec les locataires des maisons de l'État, qui croient que le fait d'occuper une maison pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, que c'est devenu votre maison.
Mais la plupart, ce sont des responsables.
Oui, mais ce sont des responsables qui restent toujours locataires.
Parce que les principes ne peuvent pas arriver à Gombe, peut-être que c'est ça le mal, les responsables, ils confondent.
Oui, la maison reste toujours locataire, c'est une maison de l'État. Et où on croit que. Et puis il y a même ceux qui tentent parfois, ils habitent dans une maison de l'État et ils construisent même à côté. Ils construisent deux années, trois années. Alors, c'est pas normal, c'est pas autorisé, ça reste toujours une maison de l'État. Et après la publication, il y a encore une opération qui va suivre, c'est l'immatriculation. C'est-à-dire où on va demander chaque maison de l'État à poser des signes distinctifs. Où vous allez déjà en passant, vous voyez que. Il y a déjà un signe distinctif, un signe qui vous dit que c'est une maison de l'État.
Oui, j'avais posé une question de curiosité au début de cette émission sur l'unité des logements que nous avons dans notre pays aujourd'hui. Parce qu'après des enquêtes qui ont été menées, les rapports publiés par Obama et tant d'autres services qui ont mené les audits, à ce jour, on peut dire dans l'ensemble du pays, dans les domaines de l'État,
nous avons plus de 15 000 unités de logement. À travers 15 000 unités de logement. À travers toute la République.
Alors,
dans toutes les provinces,
les unités qui sont menacées de ces spoliations, qu'on ne connaît pas les propriétés exactement, et qui sont sujettes parfois
à. Non, dire qu'on ne connaît pas les propriétés, ça appartient à l'État. Des unités de logement qui appartiennent à l'État, mais où des gens font des démarches. Les gens font des démarches, c'est pas pour déposséder l'État de ses biens. Croyons que l'État n'existe pas. L'État existe.
Voilà, on va prendre Maître Deo Gracias, qui est à Kinshasa, et Maurice également, dans la ville province de Kinshasa. Maître Deo Gracias, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole. Quel est votre avis par rapport à ce débat?
Oui, par rapport à la thématique du jour, j'aimerais tout simplement poser deux petites questions à notre cher invité. La première question est celle de savoir l'immeuble qui oppose aujourd'hui le ministre, le conseil spécial et le journaliste et la vice-famille. C'est un bien public, c'est un bien du domaine public ou bien du domaine privé de l'État. Ça, c'est la première question. Et la dernière question est de savoir l'acte posé par les professeurs Luzolo. C'est un bel acte pour éviter qu'il y ait plus d'expoliation des biens de l'État. Mais la question est de savoir la procédure menée par le professeur Luzolo. Est-elle une procédure à encourager ou bien à...
Voilà, Maître Deo Gracias, vous êtes un juriste, j'imagine.
Ouais.
Voilà, nous l'avons dit en début de cette émission avec notre invité, en fait, il y a des procédures à suivre pour que la République puisse récupérer un bien spolié. Je crois qu'à ce stade, même notre invité, je crois qu'il va y revenir, pour dire qu'à ce stade, le fait que la justice ne s'est pas encore prononcée par rapport quant à ceux, je crois que le dossier est en suspens. La famille peut se réclamer propriétaire, mais l'État continue à vérifier les documents, mais l'invité a reconnu qu'effectivement, cette famille percevait les loyers que payait l'État auprès de cette famille. Donc je crois qu'à ce niveau, mais vous, en tant que juriste, vous estimez que cette démarche, elle est biaisée ou c'est légal?
En fait,
parce que vous êtes juriste.
C'est une démarche qui est directe, donc le procès Luzolo Lubambi n'est pas compétent, n'est pas habilité quant à ça. Il a fallu qu'on puisse laisser à la justice et de trancher les litiges parce que en matière administrative, les compétences sont d'attribution. Là, aux instances judiciaires, de trancher les litiges. Et si effectivement l'immeuble appartient à la dite famille, on le remet à qui des droits ou soit à l'État congolais. Et la procédure n'a pas été bonne.
Merci beaucoup, Maître Edo, gracias d'avoir appelé de Kinshasa. Les compétences sont d'attribution. C'est ainsi que nous devons comprendre dans cette affaire et que, comme l'a dit notre invité, c'est une affaire qui reste encore en suspens. Maurice, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Maurice.
Oui, je vous salue aussi, Jérôme Gébo.
Vous avez la parole, Maurice.
Je suis en fait un peu peiné de... Lorsque j'écoute certains de nos compatriotes déclarer que Luzolo Lubambi n'est pas compétent d'initier une telle procédure, nous avions suivi ce compatriote s'acharner sur la lanterne de la justice lorsqu'il avait déposé depuis le 23 juin devant le procureur général de la République une plainte contre le haut fonctionnaire de l'État ainsi que cinq gouverneurs de province pour raison de détournement, de confusion. Et aujourd'hui, ce monsieur ne se fatigue toujours pas pour faire ce que la justice doit faire. Je pense qu'à l'absence d'une action initiée par la justice, tout Congolais est capable en fait, de dénoncer, comme nous en avons bien compétent par rapport à ses fonctions, d'initier une telle démarche. Mais il faut quand même se demander, cette démarche va nous amener à quoi?
Maurice, est-ce que vous êtes d'avis? Notre invité, J.R. Bongui, l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que rares sont ces privés qui ont construit, en tout cas depuis la colonisation jusqu'à ce jour, peut-être il y a ce boom immobilier où les privés commencent à construire des espaces qui sont restés vides, mais dans les temps, en tout cas toutes les vieilles maisons, c'était des maisons de la colonisation. Alors, aujourd'hui, faudrait-il faire en sorte que l'État puisse rentrer dans ses droits ou laisser des maisons de l'État se volatiliser, être spoliées à grande échelle?
Ah, mais le choix est clair. Je pense qu'à cette réponse, la loi qui donne l'État doit entrer dans ses droits. Bon, au moment, c'est ça, c'est que je suis en train de soutenir l'action de Luzolo Lubambi. Mais je suis en fait peiné même de constater que certains compatriotes ne le soutiennent pas. Oh, c'est un travail qui est bien fait, hein, mais nous demandons maintenant l'action ou même la place de la justice dans ce pays, parce que la justice devait identifier tous les immeubles de l'État. Et le procureur général dans ses missions, c'est de rechercher les infractions, de rechercher en fait les ceux qui sont
Je crois que Maurice, il y a un rapport qui a été déposé à l'Assemblée nationale. Il revient maintenant aux instances judiciaires de pouvoir consulter ces rapports qui est bel et bien à l'Assemblée nationale. Il y a eu même des commissions. Les ministres Fridolin, Kachetti, pour ne pas les citer, est passé en tout cas à la tribune de l'Assemblée nationale pour expliquer en long et en large que la gestion du patrimoine posait problème, le patrimoine de l'État, et qu'il y avait des spoliations à grande échelle. Donc je crois que nous n'avons pas intérêt à pérorer encore là-dessus parce qu'il y a des rapports qui sont là et qui, en fait, en disent déjà plus.
Mais c'est ça, exactement. C'est-à-dire que chacun doit jouer son rôle. Mais le rôle, en fait, principal, le rôle même le plus important dans cette démarche, c'est d'abord la justice, un combat à la justice. C'est la justice qui doit établir, en fait, la responsabilité. Mais lorsque cette justice est passive, hein, j'entends le gens au banc de se plaindre, de se dire, déclarer que même dans le privé, si vous allez, vous allez trouver que de voleurs de singes, des voleurs de singes, des voleurs de
personnes. Merci beaucoup, Maurice.
Il y a de grands cas.
Merci beaucoup, Maurice. Je crois que notre invité voulait réagir par rapport à l'intervention de Maurice tout à l'heure.
Oui, oui, simplement pour dire qu'on va éviter de personnaliser l'affaire. Le pauvre Zolo agit comme agent public de l'État.
Mmh.
Et j'avais dit tout à l'heure que l'État, à un moment donné, avait commencé à payer le loyer à cette famille. Mais après, l'État s'est rendu compte qu'il fallait vérifier. Et l'État avait arrêté à payer le loyer, puisque l'État voulait quand même s'assurer si réellement cette maison appartenait à cette famille-là. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui avec le procès aux autres, ça date depuis longtemps.
Oui, par rapport aux attributions, j'aimerais bien que vous nous éclairez un peu, parce qu'il y a un auditeur, un juriste qui a dit la compétence et l'attribution. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde sait que, par rapport à ce titre, le conseiller d'un chef de l'État, c'est un pouvoir consultatif. Ce n'est pas un pouvoir répressif, c'est la justice. Et vous avez expliqué, bien expliqué au début, la procédure à suivre pour, au fait, dénoncer un cas d'expoliation et que la justice, après avoir constaté les rapports présentés par les ministères attitrés, notamment le service de l'habitat, et l'urbanisme de l'habitat et les affaires foncières, c'est à ce moment-là que la justice pourrait agir.
Oui.
C'est ça, en fait.
Oui, oui, c'est ça, en fait. Mais en fait, en attendant, mais je crois que le professeur Bousson a dit que ce sont des mesures conservatoires qui ont été prises.
Est-ce que c'est à lui de prendre des mesures conservatoires ou c'est au procureur ou encore au magistrat qui a compétence de constater les infractions?
Bon, en fait, la maison était occupée par un service public de l'État.
Est-ce que le ministère de l'Urbanisme et Habitat s'en est plaint pour dire que cette maison appartenait bel et bien à l'État?
Non, attends, qu'on clarifie un peu les choses. Vous savez, les maisons, ça relève, ça c'est un bâtiment qui faisait usage de soins d'un service public, il relève plutôt de la gestion du ministère des travaux publics. Ça, c'est le domaine public de l'État, et ce n'est pas le
ministère. Mais le ministère de l'ITPR ne s'est même pas prononcé là-dessus. C'est plutôt d'autres personnes. Bon, de toute façon, on va prendre Maître Joseph qui était ici. Maître Joseph, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Maître Joseph.
Merci tout d'abord de m'accorder la parole, monsieur le journaliste. J'appuie intégralement vraiment la démarche effectuée par monsieur Louzo Loban du Pessa. Et à côté du chef de l'État à cette matière-là, j'ai une lettre signée par Louzo Loban du Pessa à l'époque, lorsqu'il était ministre de la Justice des droits humains. Cette lettre est donc du 28 avril 2012. Quel dit l'objet de cette lettre? Exécution, jugement RH, ça a des numéros, RCI a des numéros, RCR a des numéros, affaire Ongona et Longo Zola et consorts. Pourquoi je lis cette lettre? C'est similaire au cas que vous déplorez pour le moment. Cette lettre a été adressée à l'inspecteur général des services judiciaires à Kinshasa Gombe. Qui dit ceci? Monsieur l'inspecteur général, Monsieur Ongona et consorts sont bénéficiaires de l'arrêt CIO évoqué qui m'ont servi dans le cadre des activités dites portes ouvertes organisées par mon ministère au sujet en concerne. Il ressort de l'étude du dit dossier qu'intervenu dans la présente cause, un juge pas exécutera. Sous RC 19,
146, oui, maître Joseph. Maître Joseph.
Le défense a été introduit dans la partie adverse et a été rejeté.
Maître Joseph. S'il vous plaît, maître Joseph. Ne nous perdons pas. Maître Joseph, s'il vous plaît. Voilà, maître Joseph. Maître Joseph, s'il vous plaît.
Oui.
Ne nous perdons pas. Je crois que là, vous évoquez un autre cas qui n'est pas celui que nous évoquons dans cette émission. J'imagine que là, il s'agit de l'autre problème.
Il s'agit de l'autre problème, hein? En fait,
voilà, ne mélangeons pas les choses, nous ne voulons pas les choses. Ne mélangeons pas les choses. Voilà.
Alors, moi, je vous dis de cette histoire parce que c'est un travail qu'il avait déjà commencé à l'époque. Donc, il n'a même pas intérêt de l'incriminer, soit. Il est en train de justifier une maison de l'État, non.
D'accord.
C'est pas vrai qu'il a commencé à l'époque.
Mmh. Voilà, merci beaucoup. Donc, il continue son travail qu'il avait commencé quand il était ministre de la Justice. C'est selon vous?
Ok.
Voilà. Okay.
Et si nous allons profiter de son positionnement actuel pour introduire encore ce dossier qui est en souffrance jusqu'à présent non exécuté.
Merci beaucoup, Maître Joseph. Nous revenons à vous, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur J.R. Bongui et Fonda et Foloté. C'est vrai, vous l'avez dit, nous avons plus de 15 000, si ma mémoire est bonne, 15 000 unités de logement à ces jours.
à travers
toute la République.
Et dont la plupart sont dans quel état de délabrement peu avancé. Donc, dont la plupart est dans un état de délabrement.
Et la plupart peuvent être aussi désaffectés.
Voilà, c'est encore un autre problème sur ce qui concerne la désaffectation. Je crois que ça, c'est souvent ça fait débat. Mm-hmm. Vous savez, en matière de désaffectation, il y a toute une procédure à suivre. Malheureusement, dans la plupart des cas, les gens n'ont pas suivi des procédures, la procédure réglementaire, même parfois, au niveau des provinces, il y a même des décisions qui ont été prises, des arrêtés signés portant des affectations. Alors, c'est pas ça. Il y a toute une procédure, c'est-à-dire, il y a un demandeur. Celui qui veut qu'on puisse lui désaffecter une maison, il écrit officiellement. Et après avoir écrit au ministre, on examine le dossier. On demande d'abord l'avis, on demande à la province pour nous donner la situation juridique. Pourquoi on demande à la province? C'est pour éviter qu'une maison en bon état, quelqu'un puisse vous dire que non, voilà, je voudrais qu'on me désaffecte une maison en état de délabrement très avancé. Alors qu'une maison encore en très bon état. Et c'est seulement après cet avis-là que maintenant le ministre va faire rapport à l'ECOFIR, c'est-à-dire la commission économique financière de construction à laquelle le ministre fait partie. Et l'ECOFIR, à son tour, va examiner et on fait rapport au conseil des ministres. C'est après cette décision-là qu'on va désaffecter. Donc, on ne désaffecte pas pour ce qu'on a demandé. Il y a toute une longue.
Alors, le problème, l'autre problème, c'est au fait les titres immobiliers. La plupart des maisons, la plupart de patrimoine de l'État, il y a ces problèmes de titres immobiliers qui se posent quand même avec acuité. Mmh. Et raison pour laquelle il y a certaines personnes en profitent énormément pour spolier les biens de l'État.
Oui, c'est cette faiblesse-là qui fait qu'aujourd'hui, certaines personnes en ont profité, comme vous l'aviez dit, pour se faire fabriquer, n'est-ce pas, des titres dont la base est fausse et de se déclarer propriétaire. Et quand on va, n'est-ce pas, devant le cours des tribunaux, en fonction, n'est-ce pas, de la loi, on dit, mais il faut maintenant que l'État puisse arriver à prouver qu'il est propriétaire de cette maison. Face à quelqu'un qui a un titre, directement, devant la justice, on donne raison à celui qui détient un titre. Mais en situation normale, l'État ne devrait pas se justifier lui-même. Les biens de l'État, l'État avoir des titres sur ses propres. Dans certaines circonstances, ça ne pouvait pas se justifier. Mais puisque nous sommes dans le contexte qui est le nôtre, eh bien, c'est une démarche qui est en train d'être faite pour qu'au moins, dans un premier temps, que ces maisons soient couvertes, n'est-ce pas, par des certificats d'enregistrement. Mais en situation normale, ça ne pouvait pas être le cas. L'État ne pouvait pas se justifier lui-même. Sinon, alors, l'État devrait aussi avoir un certificat sur le palais du peuple, un certificat aussi sur l'aéroport de Njili, tout ça, ainsi de suite. Donc, c'est
alors, restez-vous un peu sur les rapports déposés au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'au niveau de votre ministère, il y a un suivi qui est fait. Où en est-on?
Oui, il y a un suivi qui est fait, c'est-à-dire nous avions transmis le dossier plus en matière. Nous, il y a ce dossier qui a été en fait déposé au niveau de l'Assemblée, qui a été transmis, n'est-ce pas, même au niveau des instances judiciaires. Et il était question maintenant qu'au niveau des instances judiciaires, que des actions soient menées pour arriver à la récupération. Des actions menées au niveau de la justice. Pour
que parce que ça nous éviterait des récupérations d'une manière, ouais, de manière isolée,
des règlements de comptes,
des règlements de comptes.
Voilà,
ça risque de paraître comme un règlement de comptes.
Oui, il y a toute une action. Tout souvent, les gens croient que si l'État n'agit pas, on croit que l'État a oublié. L'État n'a pas oublié, il le sait à l'étude, et maintenant, ce sont des mécanismes qui vont être pour voir comment réhabiliter l'État dans ce
domaine. On va prendre Tridon qui est à Kisangani. Tridon, vous êtes avec nous, bonjour.
Radio Kaki, bonjour RDC, le monde.
Tridon, vous avez la parole.
Oui, monsieur le journaliste, merci beaucoup. Vraiment, la démarche entreprise par le conseiller du chef de l'État est une démarche normale que nous devons tous encourager. Encourager dans le sens de pouvoir neutraliser, si je peux utiliser le terme, les spoliateurs de biens publics, des biens de l'État. Et s'il y a un problème maintenant, le problème, c'est la justice qui peut maintenant trancher, comprendre est-ce que le conseiller chef de l'État, est-ce que l'État congolais a raison ou bien Madame Katinga a raison. C'est là où il y a un problème. Et ce que je n'aime pas, ce que je n'aime pas, c'est la démarche répressive mise en place par le conseiller du chef de l'État. On ne peut pas se connaître quand on est une autorité, la population ne représente rien et on agit au nom de la population, au nom de l'État, au nom du pouvoir, pour pouvoir infliger n'importe quel comportement à la population, ce qui est très dégradant. Alors, l'autre problème, c'est que on constate que les spoliateurs de biens publics de l'État sont les animateurs de foi des institutions sont souvent pas disponibles, n'est pas, on ne pense pas ici au Congo avec Sangani. Je vous donne un cas, monsieur Papa Otaï a fait la médaille, il était gouverneur ici à Sangani, il habitait un immeuble, et puis quand il est parti, monsieur le gouverneur Jean-Bamanissa a été élu à la tête de la province orientale. Après ça, on a fait la réception, la réhabilité, la mairie de Kisangani. Et le gouverneur m'a dit qu'il devrait occuper la mairie et que la maison qu'il habitait n'était pas conforme au gouverneur de province. Il y a eu des petits problèmes, des rumeurs, et le monsieur même a fait. Est-ce qu'il habite la mairie? Et s'il n'est pas habité au niveau de la mairie, le maire de ville s'est opposé, je sais
pas. Voilà, ne versons pas les débats. Dis donc, merci beaucoup. Alors, on revient à vous pour conclusion, M. J.R. Bongui, Effonda, Effoloté. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Est-ce que, au niveau de ces rapports, la population peut espérer que dans les jours à venir, il y aura un éclairage?
Oui, la population doit continuer à espérer parce que vous savez, l'État reste toujours l'État. Et l'État des missions, l'État a un devoir pour répondre aux attentes de la population. Et parmi les attentes de la population, il y a cette demande de pouvoir clarifier en ce qui concerne le domaine privé de l'État. Puisque l'État existe, l'État est là, et il faudrait que nous puissions arriver à déterminer qu'est-ce qui appartient à l'État, qu'est-ce qui n'appartient pas à l'État. Je crois que c'est une mission tout à fait noble pour l'État.
Merci beaucoup, M. J.R. Bongui, Effonda et Effoloté. Nous rappelons que vous êtes directeur de cabinet au ministère de l'Aménagement, du Territoire, Urbanisme et Habitat. Merci d'être venu et tu me présentes pour nous de vous recevoir dans ce studio.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à ce programme interactif sur la fréquence de la paix. Nous disons merci à Jean-Claude Tiala qui a assuré la mise en onde de ces magazines de paroles aux auditeurs, côté de Julie César qui a manipulé les standards et Pierrot et la Mégie qui a assuré la réalisation de ce programme qui vous a été coordonné et présenté par J.R. Nguembo sous la supervision de Martin Thébou Jangué. Et nous allons nous retrouver demain dans un autre numéro de paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.